France Culture.
Question d'islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons du néo-salafisme, de l'islamisme, du djihadisme. Néo et post, ce sont des préfixes qu'on rajoute toujours quand il y a des évolutions. Pour comprendre ces nouvelles mutations, j'ai grand plaisir à accueillir Mohamed Ali Adraoui. Bonjour.
Bonjour Aleb.
Bonjour, merci de nous donner de votre temps, merci de venir nous instruire sur ces évolutions. Vous êtes politiste, historien, professeur des universités à Sorbonne, Paris Nord. Vous êtes un fin connaisseur de l'islamisme dans toutes ses dimensions. Vous avez vécu en Asie, en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne. Et vous êtes aussi un acteur du terrain. Mais pour comprendre ces nouvelles mutations et avec Tahrir al-Sham, HTS ou HTC selon, qui maintenant est un groupe qui a pris le pouvoir en Syrie, nous voulions avec vous, Mohamed Ali Adraoui, d'abord mettre cela dans l'histoire, dans la perspective historique. C'est toujours bon de faire appel au temps long pour comprendre et aplanir les difficultés du temps présent. Qu'en est-il de l'islamisme, du salafisme et du djihadisme ?
Qu'ont fait les hommes du religieux ? À quelle époque ? Et pour quelle finalité ? Et avec quel résultat ? Ça serait un peu la question générique qui pourrait nous intéresser aujourd'hui. D'emblée, je ferai une différence, si vous me le permettez, entre l'islamisme d'un côté en tant que notion et le salafisme et le djihadisme d'autre part. L'islamisme a une particularité, selon moi, c'est que c'est une notion, un champ notionnel, conceptuel, qui est défini intérieurement, endogènement et exogènement. On va commencer par la dimension, si vous voulez, endogène. Ce sont d'abord des acteurs, pour beaucoup, issus de la matrice des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimin. C'est une confrérie, une association qui n'a pas commencé comme un parti politique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui est fondée autour d'une figure extrêmement importante, un instituteur de profil plutôt séculier d'ailleurs, qui s'appelle du nom de Hassan al-Banna, en décembre 1927, et qui va, au cours des années et des décennies, devenir l'un des principaux, peut-être le principal visage de ce qui va devenir l'islamisme, notamment sunnite, à la fois dans les sociétés majoritairement musulmanes, arabes pour commencer et non-arabes pour continuer, mais aujourd'hui jusqu'aux sociétés occidentales. Nous avons des profils islamistes ou d'héritage islamiste en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, en Asie et ailleurs.
Un mot peut-être sur Hassan al-Banna, traumatisé qu'il fut, seul et avec d'autres, par l'abolition du califat et en vue l'unité de la Oumma, de la communauté des croyants, se fissurer.
Se fissurer. 3 mars 1924, les députés turcs de la très très jeune république de Turquie, fondée par la figure non moins célèbre de Mustafa Kemal Atatürk, le père des Turcs. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était en décembre 1923, donc on est quelques mois à peine après la proclamation de la naissance de la république de Turquie moderne. Cette réalité multiséculaire qui est le califat, le khilafa en arabe, qui a été le système sur lequel on s'est mis d'accord dans le cadre de circonstances sur lesquelles on pourrait revenir après la mort du prophète Mohammed, qui est la figure cardinale de la religion musulmane, 7e siècle de l'ère chrétienne. Et bien ce califat qui était censé représenter une forme d'unité métaphysique et politique de la nation musulmane, et bien est aboli, il n'est plus. Comment vont réagir certaines personnes? Avant même les frères musulmans, on va se poser la question, assez rapidement d'ailleurs, de la restauration du califat. Par exemple, 1925, on le sait moins, un congrès notamment qui se tient au Caire, sous la férule du roi Fouad, avec l'assentiment des ulama, des savants religieux, des clercs religieux de l'université d'Al-Azhar, qui cherchent déjà à nommer un nouveau calife. On pense déjà au roi Fouad de l'époque pour prendre la place du dernier calife Abdelmajid ottoman.
Il y a peut-être deux choses, moi. Hamdallah Adraoui. Pour le cas de Fouad, je le dis sous votre contrôle, simplement parce qu'il voulait être calife à la place
exactement,
du calife.
Exactement.
Et la seconde chose, le califat n'a aucune valeur sacrale. Il a commencé avec un homme, Abou Bakr, Boubaker, et finit avec un homme, en réalité avec la Grande Assemblée Nationale Turque qui a voté l'abolition le 3 mars. Le 6 mars, le décret était signé par Mustafa Kemal Atatürk.
Exactement.
Donc ce sont des hommes qui fondent une idée, vous avez parlé à juste raison, d'un symbole à la fois politique et métaphysique qu'est le califat, mais ça commence avec un homme et ça finit avec un homme.
Bien sûr, et d'ailleurs, on ne le dit pas peut-être assez, mais même les premiers musulmans, les épigones, hein, les immédiats successeurs, ou même contemporains du prophète Mohammed, eh bien, avaient des débats entre eux, à tel point que la partie médinoise de la première version de la communauté musulmane, tout de suite après le décès du prophète Mohammed, pour certains d'entre eux, voulaient nommer un calife pour les Médinois et un calife pour les Mécois de l'autre côté. Vous avez parlé d'Abou Bakr, qui lui, justement, réagit à cela, avec d'autres personnes, le calife Omar, qui lui succédera, enfin, le compagnon Omar qui deviendra calife après lui. Donc vous avez des débats.
Et le contenu... En arabe, il disait « Minna l'amir wa minkum l'wazir ».
Exactement.
De nous, ce sera le prince et l'émir, voilà. Et de vous, ce serait un vizir ou un auxiliaire ou un autre
exactement.
Émir, mais celui qui est des nôtres aura la prééminence quand
oui,
même.
Ça. Donc nous avons une communauté, un groupe religieux, mais les modes d'organisation sont débattables et débattus déjà à l'époque. D'ailleurs, si vous me permettez, Raleb, de mentionner une chose, elles sont également, j'allais dire, ces évolutions, ces débats, ils sont motivés par des considérations qui sont consciemment vécu comme non religieux. Lorsque le calife Omar, le successeur d'Abou Bakr auquel vous faisiez référence, deviendra calife lui-même, sachant que une forme de tradition avec un grand T musulman nomme les premiers califes, les quatre premiers califes, les califes de l'excellence, les califes de la bien-guidance, Al-Khulafa Ar-Rashidun,
de la rectitude,
de la droiture
spirituelle,
de la rectitude, de la valeur, de la haute valeur.
Et qui n'étaient pas nommés ainsi de leur vivant. Cette
exactement.
Appellation n'est venue que bien plus tard.
A posteriori, justement, par rapport à ce qui était vu comme une forme de déchéance par rapport à justement à ce califat matriciel ou censément matriciel qui était celui des tout premiers compagnons du prophète. Je reviens à la question de l'islamisme. Je disais qu'on peut définir cette notion de manière endogène par rapport à des générations de militants des frères musulmans, activistes fréristes, qui notamment dans le cadre de leur confrontation avec le nationalisme nassérien dans les années 50 vont commencer à théoriser une forme de rupture entre leur islam et celui d'une majorité de personnes, à commencer par celui des gens qui sont censés être des dirigeants musulmans, comme le président Nasser, qui, je le rappelle, même s'il a été dans sa jeunesse assez proche des frères musulmans, a quand même réalisé l'essentiel de sa vie, de sa carrière politique et morale dans le sillon du nationalisme arabe, al-Qawmiya al-Arabiya. Eh bien, est-il véritablement musulman ? Est-ce que le terme de muslim, qu'on traduit en général par musulman, vaut pour des gens qui combattent celles et ceux qui se voient comme les véritables détenteurs de la foi ? Sont-ils plus que musulmans ? Sont-ils des islamawiyoun ?
Oui.
Sont-ils des surmusulmans, des musulmans
c'est
lucides ?
C'est un néologisme arabe et on l'oublie
absolument,
de le souligner.
Absolument. Voilà pourquoi Raleb, et vous avez raison de me poser la question, je parle d'une approche endogène de l'islamisme. Parallèlement à cette définition endogène, vous avez une définition plus exogène, si vous me le permettez, qui définit ou qui fait référence l'emploi du terme ou du concept d'islamisme, lui, à, je dirais, deux caractéristiques. D'abord, il est... entre guillemets, un terme, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, où on vit une époque, j'allais dire, si vous me passez l'expression, brûlante, inflationniste sur la question du traitement de l'islamisme, en réalité, c'est un terme beaucoup plus banal et banalisé historiquement que ce qu'on pourrait penser, dans la mesure où, par exemple, eh bien, des historiens, des philosophes, on peut parler de Voltaire, on peut parler de nombreuses personnes, des orientalistes ont employé le terme d'islamisme pour désigner l'islam, comme on parle de christianisme, de bouddhisme, de judaïsme, de shintoïsme, qui n'est pas véritablement une religion, mais qui a un message religieux, un message moral, l'islamisme est le terme qui, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, était le terme par lequel on passait pour parler de la doctrine et de la croyance musulmane. À titre d'exemple, c'est à peu près à cette époque-là, dans la première moitié du XXe siècle, notamment en 1913, avec la publication de l'Encyclopédie de l'Islam, que pour laisser l'une des premières manifestations de ce remplacement sémantique et paradigmatique en vertu duquel islam va à partir de là être beaucoup plus, j'allais dire, usité que le terme d'islamisme. Deuxième caractéristique, eh bien, à partir cette fois-ci de la deuxième moitié du XXe siècle, dans la fin du XXe siècle, à partir des années, fin des années 70, début des années 80, les politistes, les sociologues, les anthropologues vont entrer en scène, si vous me passez l'expression, pour usiter, pour faire usage de ce terme d'islamisme, pour décrire de manière aujourd'hui immédiatement contemporaine, hein, on est encore aujourd'hui en 2025 dans le sillage de cette seconde évolution, eh bien les mouvements, les groupes, les prédicateurs, les intellectuels, les penseurs, les journalistes, les académiciens, parfois les formations armées, dans un certain nombre de cas, les régimes politiques, lorsque ces mouvements et ces acteurs ont pu gagner des élections ou s'imposer à la tête de certains États, parfois de manière violente, parfois de manière non violente. Cette idéologie, donc ce corps de doctrine, est censé désigner l'armature politique inspirée religieusement de l'islam qui va servir de programme politique. Des gens, par exemple, la première grande mention du terme d'islamisme dans cette acception, c'est 1981 avec Jean-François Clément, dans un numéro très célèbre, resté très célèbre, de la fameuse revue Esprit, qui n'est pas d'ailleurs sans lien avec un intérêt pour les questions religieuses, comme chacun sait.
Connaît-il de l'ouvrage de Bruno Etienne, l'islamisme radical ?
L'islamisme radical, on peut parler d'Olivier Roy, qui à cette époque-là laboure le terrain de manière intensive, laboure le terrain afghan, on est au début du conflit d'Afghanistan, qui n'est pas sans conséquence jusqu'à aujourd'hui. On peut parler bien évidemment également de la publication et de la réaction, de la réalisation et de la publication de la thèse de Gilles Kepel sur les mouvements islamistes égyptiens, donc les frères musulmans sur lesquels il travaille dans les années 70 et au début des années 80, dont une frange radicalisée, plus extrême et plus violente, se rendra responsable et coupable de l'assassinat du président Anwar al-Sadat en 1981. D'ailleurs, au passage, si vous me permettez cette anecdote, le livre de Gilles Kepel, titré « Le prophète et Pharaon », sera traduit en anglais dans la première moitié des années 1980, et dans la traduction anglaise, on aura du mal à traduire le mot islamiste français par islamiste en anglais. On parlera d'islamiciste, pour vous donner une illustration du fait que le débat en réalité se fait de manière dynamique, et on ne sait pas, ipso facto, de manière immédiate, nommer ces mouvements. On a un débat, sont-ils des fondamentalistes, sont-ils des puritains, sont-ils des conservateurs, sont-ils... Et donc on va passez-moi l'expression, se mettre d'accord, hein, cas un cas, sur l'usage, sur la pertinence de l'emploi d'islamisme, qui est aujourd'hui le cadre conceptuel et analytique et sémantique à travers lequel on désigne ces mouvements comme les frères musulmans, qui sont une matrice importante de l'islam politique, peut-être de l'islamisme ou de l'islam politique. Ces deux termes étant en général aujourd'hui, ces deux expressions étant utilisées de manière relativement équivalente, dont un certain nombre, j'allais dire, de manifestations et de traductions au-delà des frontières de l'Égypte donneront des mouvements comme Nahda en Tunisie, le Hamas palestinien, le mouvement de la résistance islamique, Al-Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, qu'on connaît bien aujourd'hui.
C'est à la fois un acronyme et c'est un terme arabe.
L'enthousiasme, l'effervescence. D'ailleurs, Hamas en arabe est, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, un terme très positif au passage. L'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs ce terme a certainement été choisi par les fondateurs du mouvement, que sont par exemple Cheikh Ahmed Yassine, Abdelaziz Arantissi et d'autres. Et l'acronyme, lui, c'est le mouvement de la résistance islamique, par opposition notamment au mouvement de la résistance palestinienne qui était bien plus laïque et bien plus séculier que sont par exemple le Fatah, qui est le principal parti de l'OLP fondé dans les années 60.
Et tous les partis communistes,
le FPLP, le FDLP, des figures que...
C'est-à-dire qu'il y a un coup de force sémantique en quelque sorte pour donner à la résistance une coloration confessionnelle, comme on le voit aussi dans le cas algérien avec le Front islamique du salut.
Exactement.
Si vous votez pour nous, vous irez jouir des délices paradisiaques. Et si vous votez contre nous, vous allez périr par le feu de l'enfer.
Alors c'est une des formes de discours qu'on pouvait entendre à l'époque en Algérie, par exemple, sous la férule ou sous la plume et dans la langue, dans la bouche de personnes comme Ali Belhaj.
Abassi Madani.
Exactement. Je reviens à cette dichotomie ou cette complémentarité, si on veut parler comme un islamiste, entre métaphysique et politique. C'est-à-dire que la notion, par exemple, de péché métaphysique prend... Et c'est pour ça qu'on parle d'islamisme, parce qu'on pourrait très bien condamner un péché sans être islamiste. Elle prend une connotation politique dans la mesure où elle devient la source d'une programmation politique, d'une raison d'être dans le champ et d'exister dans le champ politique. Si je me permets, ou si on se permet, si on est islamiste, d'interpeller l'opinion publique, le peuple, la nation, l'altérité, ou comment dire, les co-religionnaires, on le fera non seulement sur un mode moral et métaphysique, comme je le disais, mais cette dimension doit engendrer ce qui est la raison d'être, le trait définitionnel cardinal de l'islamisme, une raison de s'engager en politique et de faire valoir un agenda, cet agenda métaphysique, dans les programmes politiques, dans les lois du Parlement, dans les décrets gouvernementaux, dans les lois les plus, j'allais dire, les plus matérielles, les plus palpables que sont, par exemple, la gestion de la rue, de l'espace public, etc., etc. Un exemple précis, l'interdit qui est généralement consensuel, même s'il y a des débats dans les sources de l'islam autour de l'interdiction de l'alcool, un interdit moral et anthropologique, qui en général est, fait l'objet d'un consensus assez important dans de nombreuses sociétés majoritairement musulmanes, eh bien, devient l'objet d'une interdiction juridique, politique, portée par des partis, portée par des intellectuels, des acteurs, eh bien, pour l'ensemble de la société, d'abord locale, puis nationale, jusqu'au moment, j'allais dire, paroxystique, qui est voulu, qui est attendu, qui est encore attendu par de nombreux islamistes aujourd'hui, qui est celui de la réunification de l'ensemble des nations d'islam autour d'un califat restauré. Et là, je reviens à votre question sur le califat aboli en 1924 par la députation turque, néo-turque, autour de la figure de Mustafa Kemal. Ça, c'est pour l'islamisme. Donc on voit qu'il y a deux dimensions, deux racines, une racine que j'appellerais endogène, une racine plus exogène.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec le professeur Mohamed Ali Hadraoui, nous parlons essentiellement du néo-salafisme et avec cette idée d'une nouvelle mutation, mais en réalité c'est tout le triptyque de l'islam avec ses trois volets, l'islamisme, le salafisme et le djihadisme, qui a besoin d'être bien précisé avec le politiste et l'historien qu'est Mohamed Ali Hadraoui. Vous êtes un fin connaisseur de ces sujets, vous étudiez leurs mutations, et si nous parlons maintenant du néo-salafisme, on a besoin peut-être aussi de préciser le salafisme canal historique, si je puis dire. Et donc pour cette deuxième partie, et nous vous en savons gré, vous nous avez expliqué très brièvement, parce qu'il faudrait davantage de temps, l'islamisme avec ses deux acceptions et ses deux définitions endogènes et exogènes. Et qu'en est-il maintenant du salafisme ?
Il y a une différence par rapport à l'islamisme, c'est que si je veux parler de salafisme et par extension ou par ricochet du djihadisme, là nous avons affaire à des catégories d'abord et principalement endogènes, c'est-à-dire utilisées par les acteurs, prédicateurs, imams, parfois militants, activistes, parfois combattants, dans le cas du djihadisme, combattants violents. Ce sont des noms qui sont pour le coup, des concepts, des notions qui sont pour le coup d'abord et avant tout endogènes. Le salafisme, c'est l'idée qu'il n'y a de véritable compréhension authentique de l'islam que par un retour au premier temps de l'islam. D'ailleurs, dans l'étymologie du terme, as-salaf, vous avez parlé de mes... Si on voulait faire un trait d'humour, vous et moi, bien évidemment, en tant que chercheur, je peux très bien dire que mes salaf, hein, pour exagérer, hein, bien évidemment, sont des gens que j'ai cités, par exemple, comme Gilles Kepel, comme Olivier Roy, comme Bruno Etienne, comme François Burga, si on veut parler du champ français et francophone. On pourrait parler également du champ anglo-saxon, mais également, on l'oublie un peu trop souvent, de gens qui sont issus des sociétés musulmanes, qui travaillent excellemment bien sur la question de l'islamisme depuis maintenant plusieurs décennies. On pourrait parler de nombreuses personnes.
Donc les salafs sont en les gros salafs. Les devanciers.
Les premiers musulmans, les premières générations de musulmans.
Non, qui mais sont en beaucoup... l'espèce, là, dans ce que vous avez oui. cité, c'est la génération d'avant, ou en tout cas les générations
les
qui nous précèdent.
Et voilà. Donc qui assurent ou qui engendrent une fonction d'émulation, une fonction d'inspiration auprès de leurs épigones, des gens qui viennent après. Et donc salafi, toute personne, tout mouvement, parfois tout parti politique, parfois organisation armée, qui cherche à faire revivre. C'est donc une logique revivaliste, si vous me passez l'expression restaurationniste, il faut restaurer un ordre passé et dépassé. Il faut faire revivre, il faut restituer, il faut reproduire. Il faut reproduire, et ça c'est la théorie, un ordre politique, social pour certains, d'abord et avant tout une croyance, un dogme pour d'autres, une orthodoxie, une orthopraxie, une manière de se comporter par rapport à Dieu et par rapport aux êtres humains, encore pour d'autres compréhensions du salafisme, ce qui veut dire que le salafisme, au passage, est extrêmement pluriel, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui. Eh bien, cette logique, au sens premier fondamentaliste, au solia, revenir au fondement, revenir à la racine, elle a essaimé au cours des siècles, notamment à des époques, autour de figures comme Ahmed ibn Hanbal, comme...
Mort en 855, exactement. Dont on dit que... Alors, d'aucuns disent que parler d'Ahmed ibn Hanbal comme un salafiste serait... anachronique ou au mieux paracronique, mais quand même, il oui. était de ceux qui prônaient le retour oui. Alors, au comportement des pieux anciens, en tout cas des anciens censés être pieux et vertueux.
Alors, je vous remercie de mettre l'accent sur ce point, c'est qu'il n'y a de salafisme en réalité que dans une forme de pratique, d'abord et avant tout historique, c'est-à-dire c'est une forme notamment de réaction à ce qui a été vu à tort ou à raison, perçu à tort ou à raison comme des déviations de l'islam originel. Pur et inaltéré. Bon, bien évidemment, les interprétations font floresse. Qu'est-ce qui relève de l'islam pur et inaltéré? Qu'est-ce qui relève de l'islam, pour employer un terme qui revient souvent dans cette littérature et cet imaginaire, qu'est-ce qui a dévié? Qu'est-ce qui est déviant? Qu'est-ce qui est déviationniste? On pourrait parler d'Ahmad ibn Hanbal, Taqiyyuddin Ahmad ibn Taymiyyah, né en 1263, mort en 1328, de Muhammad ibn Abdul Wahhab.
Et donc, parfois, on confond, mais alors qu'il y a des nuances entre le salafisme et le wahhabisme.
De ce point de vue-là, vous avez absolument encore une fois raison. Le wahhabisme est une des versions, dans l'esprit de Mohammed ibn Abdel Wahhab, une des versions du salafisme ancrée dans les réalités et les combats qui étaient les siens dans la péninsule arabique au XVIIIe siècle. Il a vécu très longtemps, il est encore aujourd'hui, de manière extrêmement claire, il a une postérité absolument phénoménale dans la mesure où il est encore aujourd'hui cité comme la référence ou l'une des références, peut-être la grande référence religieuse d'un pays que l'on connaît assez bien, ou du moins que l'on prétend connaître en Europe et en Occident, à savoir le Royaume d'Arabie Saoudite, aujourd'hui dirigé de facto par le prince Mohammed bin Salman, qui lui aussi donne une impulsion à une nouvelle compréhension des codes religieux, des normes religieuses. C'est pour ça que vous avez en partie, j'imagine, parlé de néo-salafisme. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore dans cette logique nécessairement fondamentaliste, puritaine, lorsqu'on parle de salafisme en Arabie Saoudite?
Oui, alors vous venez justement, in medias res, vous rentrez dans le vif du sujet, d'aucuns parlent avec ce néo-salafisme, que reste-t-il du salafisme dans sa version nouvelle, et ceux qui parlent de déwahhabisation, j'y vais directement, est-ce une forme de modernité que d'assister à des festivals dans lesquels une Maria Carey ou une Jennifer Lopez chantent et dansent, sans vouloir porter un jugement de valeur. Mais dans un pays qui érigeait la musique ou la danse comme étant susceptible d'amener les jeunes gens vers des glissades dont les conséquences ne sont pas heureuses, c'est une révolution historique.
Alors vous posez une excellente question, encore une fois, c'est qui énonce le salafisme ? Mohammed ibn Abdel Wahhab se serait-il reconnu dans les pratiques ou certaines pratiques socioculturelles aujourd'hui en vogue en Arabie Saoudite ? Je rappelle au passage que depuis l'avènement, depuis la prise en main, non pas la reprise en main, mais la prise en main du régime et de la société et de l'État par Mohammed bin Salman, qui, je pense tout le monde l'aura compris, se sert de ces débats, de cette disputation autour de l'islam salafi comme d'une ressource politique pour affirmer son pouvoir et, le jour venu, il l'espère certainement, prendre définitivement, non seulement de facto, mais de jure, les rênes du pays. Il y a aujourd'hui un certain nombre de débats, comme vous y faisiez référence, au passage, à titre anecdotique ou même plus qu'anecdotique, il y a aujourd'hui, par exemple, non pas un ministère, mais un comité du divertissement en Arabie Saoudite. Vous parliez de Maria Carey, de Jennifer Lopez. Aujourd'hui, vous avez, si vous me passez l'expression, une forme de halalisation de la musique, de certaines pratiques religieuses, pardon, pas religieuses justement, elles ont été, comment dire, validées religieusement par les instances religieuses saoudiennes aujourd'hui, mais elles ne l'étaient pas il y a par exemple ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans. L'un des exemples les plus célèbres également, c'est la fin de l'interdiction pour les femmes de conduire une voiture.
Parce qu'elle n'avait aucun fondement ni théologique, ni juridique, ni moral, en quoi une femme ne doit pas conduire. Si au moins elles étaient interdites de monter à cheval ou de monter à palanquin, comme on disait du temps du prophète lui-même, et l'équivalent du cheval animal de nos jours, c'est le cheval vapeur, ou d'un point de vue électrique, on peut trouver encore d'autres analogies. Rien ne l'interdisait du temps du prophète. Pourquoi, de nos jours, les femmes étaient interdites de conduite?
Parce que, cher Aleb, salafisme vaut contenant et contenu. Les contenus changent. Une femme pouvait, il y a 15 ans, se voir interdite de conduire une voiture, chevaux à vapeur, comme vous disiez, comme une interprétation du salafisme officiel, je veux dire du salafisme, vous faisiez allusion à un salafisme canal historique, du moins en Arabie Saoudite. On peut parfaitement entendre, parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que le salafisme n'a jamais été un littéralisme. C'est une exagération. Le salafisme vaut scripturalisme. Par rapport à certains textes, et à partir du moment où on se réfère à certains textes canoniques, pour employer un terme chrétien, à savoir d'abord et avant tout le texte coranique, la geste et le modèle prophétique que l'on rend le plus souvent sous le concept ou le terme de sunna. Mmh. L'interprétation faite de ces sources par les premières générations, donc celle des salafs, le athar, c'est-à-dire la trace qui est restée dans l'histoire, qui a été mise en pratique, qui a été débattue, qui a été verbalisée, qui a été écrite parfois par les compagnons. Vous avez cité Abu Bakr, par exemple, on a parlé de Omar, de Ali. Ces personnes valent également source d'émulation. Elles ont été, après tout, pour un grand nombre d'entre elles, les premières et parfois même les seules à avoir véritablement connu le prophète Mohammed. D'où, dans l'ordre de la validité et de la légitimité religieuse, une place de choix. Eh bien, salafisme vaut...
On pouvait aller jusqu'à la troisième génération,
voilà, si on veut entrer
mais
dans
avec
les détails,
une déperdition. Oui.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, vous avez une vision, et vous faites bien de le dire, vous avez une vision, si vous me passez l'expression, qui est contre-linéaire. Les siècles qui viennent, ou qui s'avancent, ou qui se présentent à nous ne seront pas nécessairement meilleurs que les siècles qui sont passés. Ce qui est par exemple l'inverse d'une philosophie, par exemple, politique moderne et morale moderne, comme celle des Lumières, qui vaut linéarité. C'est-à-dire que les siècles à venir ont vocation à être meilleurs que les siècles passés.
Il y a la notion du progrès.
Du progrès,
de
absolument.
La marche de l'humanité vers le progrès.
De l'obscurantisme, de l'obscurité, d'où la métaphore des Lumières vers des âges bien plus, j'allais dire, reluisants et bien plus éclairés. D'où l'expression être une personne éclairée, au passage, comme vous le savez. La légitimité provient de la source, la racine. Mais la légitimité, elle est débattue. Elle est débattable et débattue. C'est pour ça que je parle du salafisme comme un contenant, un cadre de débat au sein duquel, des contenus historiques peuvent émerger, parfois être contestés. Pourquoi interdire à une femme saoudienne de conduire il y a 20 ans et l'autoriser aujourd'hui ? Tout en se disant toujours salafisme. Le salafisme n'a pas disparu en Arabie Saoudite en tant que doctrine officielle religieuse. Mais elle est interprétée différemment. La musique, aujourd'hui, fait l'objet d'une condamnation bien moindre. Elle est même encouragée par certains cercles religieux. On peut le voir également sur la question du dialogue interreligieux. On peut voir sur la question également de la politique étrangère de l'Arabie Saoudite. La solidarité pan-islamique, qui par exemple a motivé la création d'institutions comme l'OCI dans les années 60, l'organisation de la conférence et aujourd'hui coopération islamique, la Ligue islamique mondiale, le financement des mosquées, les discours religieux ont très substantiellement évolué ces dernières années pour des raisons politiques, mais également socioculturelles, comme vous le disiez. Donc salafisme vaut contenant et contenu. À partir de là, ça me permet de passer un peu au jihadisme.
Avant d'y aller, si vous voulez bien, cher Mohamed Ali Adraoui, qu'en est-il, au-delà de l'oxymore, du fameux salafisme moderniste de la fin du 19e siècle, porté par quelqu'un comme Mohamed Abdou, peut-être même son maître Jamaluddin Afrani, et par la suite le disciple de Abdou Rachid Reda, qui va incliner vers le wahhabisme parce que pour lui, il fallait choisir le moindre mal entre le laïcisme perçu comme belliqueux de la part d'un Mustafa Kemal Atatürk, autant aller vers le wahhabisme qui est quand même un peu plus authentiquement religieux.
Alors, à l'époque, on voit le wahhabisme comme une extension du réformisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une négation du réformisme à l'époque, et c'est aussi lié, bien évidemment, parce que toute chose doit être remise dans son contexte. Jamaluddin Afrani, auquel vous faisiez référence, le 29 mars 1883, dans le cadre d'un débat, vous faisiez allusion à Ernest Renan, dans le cadre de la grande université auquel vous faisiez référence, à savoir la Sorbonne, affronte ou débat ou se dispute au sens premier du terme avec Ernest Renan, un grand intellectuel philologue de la fin du 19e, qui lui voyait dans l'islam une question dépassée, pour ne pas dire autre chose.
La négation même de l'esprit scientifique.
Il parlait même de nullité des races sémitiques, sans au passage inclure les juifs. Il parlait d'impossibilité pour les mahométans de créer un grand mythe, ce qui est au passage assez paradoxal quand on sait de quoi le XXe siècle sera fait. Il parle de négation de l'esprit scientifique et d'impossibilité d'accéder aux Lumières. Il a une vision linéaire des choses, pour le coup. D'ailleurs, au passage, je me permets de dire que Renan d'un côté, Afrani de l'autre, n'étaient pas les seuls acteurs du débat. Il y a eu d'autres personnes qui étaient également partie prenante du débat. Je pense à l'écrivain turc Nassim Kemal, je pense à l'imam russe Bayazet, etc. D'autres personnes. Afrani, son élève Abdou, et dans une assez large mesure Reda, vont influencer des mouvements accrédités, donner leur assentiment à des mouvements comme le wahhabisme, en réalité salafisme saoudien de l'entre-deux-guerres. Les frères musulmans, Hassan al-Banna est aussi indirectement, voire directement, un élève de Rachid Reda, c'est un des grands lecteurs de sa revue, comme chacun sait. Donc vous avez, ce que je veux dire par là, à la fois des constantes historiques, des continuités et des ruptures. Les frères musulmans, c'est une rupture au sens politique, au sens organisationnel. Les frères musulmans sont à la fois, c'est pour ça qu'on parle de l'islamisme comme d'une idéologie qui puise dans le passé, mais qui est également, et ça il faut insister là-dessus, un produit de la modernité. Les frères musulmans, c'est une idéologie de masse qui va donner aux sociétés musulmanes le parti islamiste. J'ai parlé de Nahda, j'ai parlé d'Erdogan il y a quelques instants quand on parlait de la Turquie contemporaine. Les frères musulmans vont accoucher de cette idéologie, l'islamisme, qui est à la fois, comme je le disais, en continuité et en rupture par rapport à leur maître, que sont Reda, Abdou et Avrani. Le wahhabisme également est à la fois dans une forme de continuité, mais également de rupture, parce qu'il proposera une vision plus rigoriste, plus puritaine, un peu plus dur, eh bien, de cet héritage réformiste qui aujourd'hui est contesté, comme on le disait, par Mohamed Ben Salman dans les manifestations socioculturelles auxquelles vous faisiez référence à l'instant.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons du néo-salafisme avec Mohamed Ali Adraoui, politiste, historien, un fin connaisseur de l'islamisme mondialisé de par ses pérégrinations comme chercheur du terrain, ayant vécu en Asie, en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne. Et là, pour cette dernière partie de l'émission, cher Mohamed Ali Adraoui, nous parlons cette fois-ci de la version violente du salafisme. Que devient-elle ? On a coutume de dire, mais je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, que le salafisme se subdivise dans sa structure ternaire en salafisme quiétiste, en salafisme dit politique et un salafisme violent dit djihadiste. Et d'ailleurs, pour le salafisme quiétiste, il y a cette idée de dire que la meilleure façon de faire de la politique, c'est de ne pas en faire, au-delà de la formule. Qu'en est-il de cette évolution du djihadisme salafiste ou salafisme djihadiste? Je ne sais plus comment on place l'épithète maintenant.
Ce fut vrai, cette division tripartite, tridimensionnelle, l'est encore en partie, mais elle est aujourd'hui contestable et contestée.
Et dépassée peut-être?
Ça dépend. Il y a l'idée d'héritage, encore une fois, de constante parfois et de rupture assez souvent et de plus en plus. Le salafisme se veut comme un réformisme revivaliste, de restauration, de reproduction, de restitution de l'islam censément négligé par un certain nombre d'états, de personnes, d'où l'idée de prédication qui peut prendre dans certains cas la forme d'un parti politique. On l'a vu en Égypte au moment du printemps égyptien, il y a à peu près une dizaine d'années, avec la constitution. On l'a vu aussi en Tunisie, on l'a vu au Koweït, on l'a vu un peu partout dans les sociétés majoritairement musulmanes. Des gens qui ont dit, le meilleur moyen de rappeler à l'ordre, de restaurer cet agenda religieux, ce dogme, ces vertus religieuses, ces normes religieuses, ces pratiques, ce n'est pas uniquement par la prédication classique, le sermon dans une mosquée, la discussion en petits groupes, ça c'est plutôt l'apanage, comme vous le disiez, des salafistes qu'on qualifie de quiétistes, qui, pour certains d'entre eux, sont allés jusqu'à dire, à travers l'une de leurs grandes figures, Mohamed Nasiruddin Albani, qui est mort il y a une vingtaine d'années, l'une des grandes figures, peut-être la plus grande figure du salafisme contemporain, a dit que justement la politique allait nous perdre. La politique allait porter atteinte à notre désir de purification. C'est quelqu'un qui voyait le politique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme une source de perdition potentielle. À cela, il proposait la nécessité d'éduquer, de lire, de débattre des concepts religieux, de la vie du prophète, de celle des compagnons, des concepts religieux. Qu'est-ce que c'est qu'une foi authentique? Y a-t-il des choses qui font de vous un meilleur musulman, un moins bon musulman? Y a-t-il des choses qui vous font sortir de l'islam? D'autres personnes, comme je le disais en Égypte au moment du printemps égyptien, d'autres acteurs ont pensé que non, le champ politique pouvait être une source de renouveau de la religion et de la foi, et de réforme religieuse. Il est possible, en se frottant à d'autres partis, de faire valoir les vues salafistes, de changer les lois, d'améliorer les mœurs de leur point de vue, de porter, de faire évoluer la société égyptienne, tunisienne, pakistanaise, koweïtienne ou autre, marocaine, vers plus de conformité avec les valeurs et les normes de l'islam, aussi débattues soient-elles bien évidemment. Un troisième mouvement a réagi, il a réagi à ses visions du salafisme, il a également réagi à la politisation canal historique des frères musulmans, en disant « vous ne faites au final que, pour citer un grand texte du djihadisme, je pense que le nom de Ayman al-Zawahiri donnera des frissons à un certain nombre de personnes, ou du moins il sera connu d'un certain nombre de personnes ici, ou d'auditeurs ». Il fait partie des gens qui publient, au tournant des années 90, donc il y a à peu près une trentaine d'années, un texte qui s'appelle « La moisson amère ». Vous n'allez faire que récolter quelque chose de très amer au final, et vous n'arriverez jamais, un, à changer ces sociétés, vous n'arriverez jamais à réformer comme vous le souhaitez l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Maroc, le Pakistan, le Nigeria, le Kazakhstan, et je pourrais bien évidemment continuer la liste. Cela ne peut passer, deuxième chose, que par une confrontation, un affrontement qui dépasse l'État. C'est pour ça qu'en un sens, les salafistes jihadistes, qui aujourd'hui sont d'ailleurs essentiellement jihadistes, et je reviendrai là-dessus après, se confrontent également autant aux islamistes qu'ils n'essaient de perpétuer leur idée de restauration du califat. Ils ne croient pas au stade stato-national. Ils ne croient pas uniquement à la prédication. Ils pensent plus confrontation que prédication. C'est pour ça que des organisations comme Al-Qaïda, qui est née, comme je le disais, on a fait référence à ce conflit il y a quelques instants, le conflit d'Afghanistan, bien connu par un de mes salafs, Olivier Roy par ailleurs, c'est à partir de là que ce nouveau récit, ce nouveau narratif prend forme, l'idée d'un combat contre les ennemis de l'islam.
Qui est curieux, pardon, pour le cas de Ayman Dawahiri, lieutenant de Ben Laden et puis actuellement...
Il est
chef.
Décédé.
était chef d'Al-Qaïda. C'est un médecin qui devrait être, selon le serment d'Hippocrate, pétri d'humanisme, etc. Il fait rappeler certains médecins nazis qui ont plutôt une vision anti-humaniste, alors que leur profession, leur vocation, leurs études doivent les mener à plus de sollicitude à l'égard de leurs propres semblables.
Alors, médecin assurément, francophone, et héritier d'une grande famille plutôt de nationalistes arabes. Son grand-oncle était l'un des fondateurs de la Ligue arabe en 1945. Puisqu'on peut poser les questions de porosité, de circulation entre l'arabisme et l'islamisme, entre l'islamisme et le salafisme, entre le salafisme et le jihadisme, y a-t-il des allers-retours ? L'une des grandes figures des frères musulmans aujourd'hui, Khairat al-Shatir, a commencé dans ses jeunes années assez proche des communistes. Il faut le savoir avant d'évoluer vers l'islamisme. Donc il faut absolument et ne jamais voir ces choses en termes statiques, mais bien évidemment dynamiques.
Comme Sayyid Qutb qui a commencé par un laïciste même assez dur pour finir par être un islamiste dans l'acception que vous avez définie, assez dur.
Et d'ailleurs Sayyid Qutb qui incarne une forme de radicalisation doctrinale et politique des frères musulmans dans les années 50-60, une partie de sa radicalisation se fait en Occident, au contact de l'Occident, aux États-Unis, dans le cadre d'un voyage resté fameux et célèbre, où il aurait pris conscience de la véracité dans laquelle se trouvait Hassan al-Banna, ce qu'il n'a jamais connu par ailleurs, mais dont il s'est fait fort à son retour en Égypte, et même avant, eh bien, de défendre et de proposer comme alternative, comme modèle de militantisme, ce qui lui vaudra un grand nombre, j'allais dire, de soucis avec le régime nassérien, ce qui conduira à sa pendaison en août 1966, non pas sans avoir au préalable écrit l'un des textes de référence de l'islamisme moderne, à savoir « Jalons sur la route, Ma'alim fi at-Tariq », où il propose des jalons, un jalonnement de la démarche islamiste, depuis de petits groupes jusqu'à l'État islamique et la restauration du califat. Et ce n'est pas sans raison à ce titre-là que Qutb est une des références aujourd'hui du mouvement ou des mouvements djihadistes qui en font l'un de leurs grands maîtres à penser.
Donc, alors, pardonnez-moi, je vous ai interrompu dans votre élan en nous expliquant cette fois-ci le djihadisme comme manifestation violente et dans une idéologie de combat sacré du salafisme, dans cette version-là. Alors qu'en est-il avec des groupes comme HTS?
Oui.
C'est aussi l'acronyme de Hayat Tahrir al-Sham,
oui.
L'instance qui
de
libération du Levant. Alors, ont-ils mis un peu d'eau dans leur vin, si je puis dire, ou ce sont les conjonctures internationales qui les obligent à être un peu dans cette réelle politique, ou c'est tout simplement une évolution ?
c'est au moins autant le fruit et le produit de contraintes structurelles ou structurales du champ politique syrien et du système international, régional et international, que c'est également une manifestation, une conséquence d'un certain nombre de questionnements qui traversent plus généralement le champ de l'islamisme, du salafisme, puis du djihadisme. Je parlais du salafisme comme contenant et contenu. Vous avez des groupes minoritaires, mais extrêmement visibles, qui ont décidé ou qui ont théorisé, conceptualisé l'idée que tous ces éléments, prédication, activisme, constitution en parti politique, réformisme, légaliste par exemple, qui définissent en général, par exemple, pour ce qui est du réformisme légaliste aujourd'hui, l'essentiel de l'activité des frères musulmans, en Égypte et ailleurs. Eh bien, tout cela était au final du prix, ou du moins était inefficace, inefficient. Seul le combat allait purifier et réformer et faire advenir l'ordre sociopolitique que les djihadistes appelaient de leur vœu. D'où l'idée de combat qui, à la fois, a une valeur, encore une fois, métaphysique, de purification, d'accession à l'agrément divin, à travers notamment le fait de gagner le paradis, de gagner le paradis dans les deux sens du terme, au sens ici terrestre et au sens après la mort.
Céleste.
Céleste, exactement. Et dans un deuxième temps, ce combat est censé également s'ancrer, et c'est là que, à mon avis, cela constitue une des forces du djihadisme, faiblesse également, mais aussi une de ses forces, durant les premières décennies du djihadisme, de traduire des conflits, des rivalités, des oppositions, de s'ancrer, de s'incruster, de djihadiser des oppositions sociopolitiques déjà existantes. On a parlé de l'Afghanistan, on pourrait parler de la guerre d'Irak, on pourrait parler du conflit syrien qui n'a pas commencé comme un combat entre djihadistes et le régime de Bachar el-Assad, qui a commencé, si vous me passez l'expression, comme une rivalité, une confrontation très verticale entre un peuple qui voulait sa liberté, qui l'a en partie maintenant acquise depuis quelques semaines et le mois de décembre 2024 et le départ de Monsieur Assad, dirigeant du parti syrien et de ses acolytes. Ces conflits-là peuvent être menés au nom, non pas d'un référentiel terrestre, mais d'un référentiel sacral qui est celui des djihadistes. Cela nécessite de définir qui est l'ennemi des musulmans. Comment frapper cet ennemi? Par le terrorisme? Par un combat, passez-moi l'expression, rangé, en bataille rangée, en ordre rangé? Par un combat idéologique, en écrivant des choses, en publiant des choses, en faisant des alliances? Et aussi, comme je dis encore une fois, contenant et contenu, cela mène à des divisions. Pourquoi est-ce qu'Al-Qaïda a, en Syrie, évolué vers Hayat Tahrir al-Sham, en passant par la phase Al-Nusra, Nusra qui était un groupe djihadiste, d'abord et avant, qui s'est progressivement constitué dans les années 2010 comme un groupe djihadiste, d'abord et principalement, voire exclusivement, syrien, composé principalement de Syriens, avec des contingents étrangers, mais principalement de combattants syriens, pour le peuple syrien, et qui, dans sa dernière phrase, a évolué vers, comme vous le disiez, Hayat Tahrir al-Sham, l'entité, l'instance de libération du Levant, qui aujourd'hui se veut, si on en croit son dirigeant principal, Ahmed Sharah, anciennement Abu Mohammed al-Jawlani, issu de la région du Golan, occupée par les Israéliens depuis 1967, comme dirigeant politique. On le voit sur le plan de sa vêture, on le voit sur le plan de sa prestance aujourd'hui, de son éthique politique. Il se veut le dirigeant politique d'une nation syrienne et non plus de la grande nation de la fameuse Oumma Islamia. Pour maintenant répondre à votre question, est-ce que ce djihadisme-là aujourd'hui peut encore être appelé djihadisme? C'est la même question. Est-ce que le djihadisme est salafisme? Est-ce que le djihadisme s'est autonomisé par rapport à la question du salafisme? Est-ce que le combat a pris le pas sur la prédication, sur l'orthodoxie, l'orthopraxie? Vaste question. Vous avez des débats aujourd'hui assez importants, voire très importants, entre les chercheurs. Je ferai plutôt partie aujourd'hui de celles et ceux qui, au sein des chercheurs, avec bien évidemment tous les débats et toutes les nuances et toutes les limites que cela peut comporter, qui verraient aujourd'hui dans le djihadisme une forme, j'allais dire, de militantisme autonomisé par rapport au salafisme historique. En cela, sur un plan sociologique, peut-on dire aujourd'hui que les djihadistes sont passés par la case salafiste? Ont-ils été socialisés dans l'interaction avec une littérature salafiste, avec des prédicateurs salafistes, dans des mosquées salafistes? On peut de moins en moins le prouver et le montrer. Ce que, par exemple, montre bien quelqu'un comme Farhad Khosrow-Kavar en France. Et on peut également additionner les exemples et citer d'autres chercheurs qui vont dans ce sens. Il y a, et c'est une, si on veut revenir un instant à la dimension historique, Raleb, une chose qui me tient à cœur, je pense avoir des raisons de dire avec d'autres chercheurs, c'est que depuis maintenant un siècle et demi de militantisme au nom de l'islam, d'activation politique de l'islam, toutes les une à deux générations naît un nouveau narratif. Le réformisme d'Avrani Abdou a donné, dans les années 20 et 30, les frères musulmans. Dans les années 50-60, nous avons eu le qutbisme, une version radicalisée et plus extrême de la pensée et de l'action des frères musulmans. Dans les années 80, nous avons vu éclore le djihadisme transnational autour de figures comme Zawahiri, Ben Laden, autour et dans le cadre de l'émergence d'Al-Qaïda. Puis dans les années 2010, une marche à l'extrême encore plus importante avec l'organisation État islamique qui a, pendant quelques années, été à la tête d'un califat restauré, du moins de leur vision du califat, à travers l'État califal, le Dawlat al-Khilafa, à cheval entre le territoire ou les territoires syriens et irakiens. Donc il n'est pas en réalité si novateur que cela de parler d'autonomisation du djihadisme. On voit que, parce qu'après tout, ce sont des mouvements sociaux, fait, comme vous le disiez, là je reviens à votre excellente introduction, faite de chair et de sang, animée par des individus, des acteurs qui pensent, qui écrivent, qui débattent, qui s'opposent, qui se contredisent. Est-ce que monsieur Jaoulani, redevenu plutôt monsieur Ahmed Charah, aujourd'hui sort du djihadisme? Il y a des raisons de le penser, comme il y a des raisons de penser que cela peut être conjoncturel. Donc en un sens, il faut être modeste, on ne sait pas encore. Mais on a des raisons de penser.
Tout ce que vous avez évoqué, on est dans l'obédience sunnite. Il nous faudra beaucoup plus de temps, et si vous nous faites l'amitié de revenir pour parler de l'obédience chiite, nous en parlerons davantage. Ce qui pourrait intéresser nos auditeurs aussi, c'est qu'est-ce qui justifie le préfixe néo devant le salafisme, et cette fois-ci, on est peut-être uniquement dans la conjecture, avec ces évolutions-là, quels sont les impacts sur les banlieues des grandes villes européennes et particulièrement françaises? Quel est l'impact sur les sociétés travaillées par de forts courants de sécularisation? Je parle des sociétés musulmanes. Serions-nous à la croisée des chemins?
Nous sommes très certainement et très assurément aujourd'hui à l'aube de recompositions majeures. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, par exemple, parler de salafisme-jihadisme ou tout bonnement de djihadisme? Il y a des raisons, à mon avis, de le croire, même si on peut toujours débattre, bien évidemment. On en reparlera, je pense, encore pendant très longtemps de ces débats. Donc vous n'allez pas être mis au chômage de sitôt, cher Aleb.
En tout cas, moi, sur ce sujet-là, mais...
Oui, et pas seulement, si vous voulez mon avis. Il y a, je dirais, deux grandes tendances. La mondialisation, aujourd'hui, hybride les choses. On peut être un salafiste français, d'Aubervilliers, des Mureaux, avec tous les débats qu'on a en France, sur le séparatisme, sur la radicalisation, sur un certain nombre aujourd'hui de débats politiques, politico-médiatiques, sur le bon islam et le mauvais islam. Le salafiste étant en général, alors essentialisé par ailleurs, très souvent dans la bouche de nos commentateurs et de nos dirigeants, mais c'est aussi en partie pour certains leur rôle, du moins de faire des lois, de réagir à ces évolutions, pour certains, et certaines et certains. Le salafiste d'Aubervilliers aujourd'hui, préfigure-t-il une forme de salafisme d'Occident, par exemple? Est-ce que les évolutions dont on a en partie parlé relatives à l'Arabie Saoudite préfigurent une forme de modération globale du salafisme contemporain au XXIe siècle? On peut le penser, on peut le contester, mais il y a au moins la question qui mérite d'être posée. Le djihadisme aujourd'hui évolue-t-il vers un mode d'action transnational avec un certain nombre de ressources mais aussi beaucoup de contraintes? Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement violent qui n'a pas prise territoriale? Et je passe à ma deuxième, remarque. À partir du moment où on se re-territorialise, où on se renationalise, que ce soit la question du salafisme avec Mohammed Ben Salman, aujourd'hui, qui veut mettre plus de saoudisme que de salafisme dans son contrat social, avec Tahrir al-Sham en Syrie, est-on encore un mouvement transnational à vocation, j'allais dire, de changement global? Donc cette dichotomie, cette tension, double tension, elle est aujourd'hui, à mon avis, au cœur et elle nous permet de penser les évolutions qui ne manqueront pas de caractériser le champ de l'islamisme, du salafisme et du djihadisme globaux pour les décennies à venir.
Qu'en est-il, au-delà de la simple anecdote, et quand il s'agit de respect de la dignité humaine dans sa composante féminine, ce n'est pas qu'une anecdote, c'est même fondamental, d'un dirigeant qui cherche une respectabilité internationale et qui ne serre pas la main à la ministre des Affaires étrangères allemande.
Vous parlez de monsieur
Ahmed Charah, alias Al-Jolani.
C'est intéressant. Le chercheur vous dira, nonobstant toute considération morale, d'ailleurs il l'a justifié par des motifs moraux. Il a pris soin de s'excuser, de montrer ou de vouloir dire qu'il n'avait aucune animosité particulière par rapport à la gente féminine. Mais nonobstant, il est donc l'héritier d'une tradition religieuse ou politico-religieuse. En ce sens, il y a encore une fois des constantes, mais aussi des changements. Il est allé, par exemple, se faire prendre en photo auprès de clergés, du clergé du nord de la Syrie. Il a pris soin, durant les fêtes de fin d'année, donc il y a très peu de temps, eh bien, d'affirmer, de réaffirmer plusieurs fois que personne, que la population non musulmane de Syrie, dont il est donc, si on, attention, il faut insister là-dessus, dont il est donc et dont il se voit, ou par rapport à laquelle il se voit, comme le représentant légitime. Il est donc en partie dans une logique d'inclusivité politique, voire symbolique. La question maintenant est
ayant nommé une femme gouverneur.
Absolument. Il a nommé une femme gouverneur, tout comme il a nommé des non-syriens dans son gouvernement, des Ouzbeks, des Irakiens. Comment peut-on l'interpréter? Il est dans une forme, j'allais dire, d'hybridation, d'innovation au sens premier du terme, doctrinalo-politique. En ce sens, est-il encore djihadiste? Il y a des raisons de le penser. A-t-il abandonné la lutte armée? Absolument pas. D'ailleurs, de nombreux défis stratégiques et militaires attendent encore la Syrie. On a parlé du Golan, on peut parler du facteur kurde, on peut parler de l'opposition qui n'a pas disparu, des fidèles, des gens qui vont rester fidèles, des acteurs qui vont rester, des groupes qui vont rester fidèles au bassisme et à Bachar el-Assad. On peut parler de dissensions au sein même du djihadisme. L'État islamique n'a pas disparu de Syrie. Donc en cela, est-il un state builder, le constructeur, le fabricant, l'orfèvre d'un nouvel État et donc d'un nouveau contrat social, avec toutes les questions que ça implique? Qui est syrien, qui ne l'est pas? Qui a accès aux mêmes droits que les musulmans sunnites, qui n'auraient pas éventuellement accès aux mêmes droits? Et quelles vont être les conditions de mise en pratique de ce nouvel agenda? En ce sens, pour l'instant, en réalité, cher Alep, personne ne peut répondre avec certitude. Mais il y a des raisons de croire, et bien, qu'une forme d'hybridation majeure se joue aujourd'hui en Syrie. Et je terminerai sur une chose. Eh bien, pour revenir à la question, par exemple, du rapport à l'agente féminine ou au personnel politique féminin, il est dans une forme aujourd'hui peut-être de dépassement. Je l'ai entendu encore une fois il n'y a pas très longtemps, c'était durant les fêtes. Il expliquait, et ce qui est très très important dans la bouche de quelqu'un, de monsieur Ahmed Achara, il explique aujourd'hui que la logique de l'État peut prendre le pas sur la condition de défense d'une communauté religieuse. En ce sens, il commence à parler comme un chef d'État moderne.
Bien, très bien. Merci infiniment, Mohamed Ali Adraoui, d'être venu nous expliquer ces évolutions, ces tensions à l'intérieur de la mouvance salafiste et ce qui justifie l'appellation néo-salafisme. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Et vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site France Culture. Et vous pourrez la podcaster, la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jean-Benoît Tétu. Et la réalisation est assurée par l'ami François Conan.